Tension à la marge, votre chronique féministe sur Divergence FM.
Il faut une sacrée dose de volonté à une femme noire pour atteindre le sommet de la montagne qu'elle vise.
Attention à la marge, où on parle de féminisme, d'antiracisme, d'anticapitalisme.
Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours.
Attention à la marge sur Divergence FM. Bonjour à toi qui m'écoutes. Bienvenue dans Attention à la marge. Dans le dernier épisode, je t'ai parlé de l'intrépide Nelly Bly, qui est considérée comme la première femme journaliste de l'histoire. Quand on cherche son nom sur Internet, on trouve des livres, des documentaires, une mine d'informations sur sa vie et ses accomplissements. Mais était-elle vraiment la première ? J'ai beau l'admirer, ce titre qui lui a été attribué ne me semble pas tout à fait juste. C'était peut-être la première femme reporter, certes, mais d'autres l'ont précédée, de près ou de très loin. Et je reconnais que je suis assez fière de te dire, chère auditrice, que les grandes pionnières sont de chez nous. Nous sommes donc en France, en plein milieu du siècle des Lumières. L'académicien Louis-Félix de Keralio et son épouse, l'écrivaine Marie-Françoise Abeille, accueillent leur première fille, Louise Félicité de Keralio. Élevée dans un environnement aristocratique et littéraire, la jeune Louise est très tôt attirée par l'écriture. Elle s'initie à la traduction et commence à publier des œuvres traduites de l'anglais alors qu'elle n'a que 16 ans. En 1788, elle écrit « Histoire d'Élisabeth » qui retrace la rivalité entre Marie Stuart et Élisabeth Tudor. Le livre est applaudi par les journaux de l'époque, comme le Mercure Galant, qui commente « Jusqu'ici, nous n'avions pas vu en France d'historienne. Mademoiselle de Keralio est, je pense, la première ». Louise Félicité, première historienne donc, mais pas que, c'est aussi l'une des premières femmes à avoir été élue dans l'Académie des inscriptions et des belles lettres. C'est Robespierre en personne qui l'accueille. À cette occasion, il affirme que la femme doit entrer dans l'institution académique et que ceci est une avancée pour le bien public. En 1789, la Révolution française éclate. La prise de la Bastille, le 14 juillet, plonge le pays dans une période de troubles et de bouillonnement républicain. Bien qu'issue de la petite noblesse bretonne, Louise Félicité s'engage immédiatement en faveur de la République. Le 13 août, elle fonde le journal « État et citoyens » et devient de ce fait la première rédactrice en chef de l'histoire. Sa devise « Vivre libre ou mourir ». Dans son journal, elle publie des articles en son nom propre, contrairement à la coutume, qui veut que les femmes écrivent toujours sous pseudonyme. Elle prône l'utilisation du tutoiement pour abattre la hiérarchie sociale et propose de remplacer « monsieur et madame » par « citoyen et citoyenne ». Après le journal d'État et du citoyen, elle prend la direction du « Mercure national », de « Révolution de l'Europe », du « Journal politique de l'Europe », etc., etc. Elle organise chez elle, au 10 rue de Condé, un salon républicain mixte qui devient l'un des épicentres intellectuels de la Révolution. Elle s'oppose à l'esclavage colonial et revendique son droit politique en portant la fameuse cocarde. Elle participe aussi à la Société fraternelle de l'un et l'autre sexe, qui milite pour la légalisation du divorce et la généralisation de l'éducation pour toutes les citoyennes. En accord avec cette idéologie, elle refuse d'épouser un aristocrate et se marie avec un cordelier révolutionnaire, Pierre-François Robert, qui fera partie des révolutionnaires à signer la condamnation à mort de Louis XVI. Mais les temps sont troublés et la monarchie n'a pas dit son dernier mot. Lorsqu'elle est restaurée en 1814 par Louis XVIII, le couple s'exile en Belgique, où Louise Félicité finit sa vie. Un mot avant de se quitter, chère auditrice. Louise Félicité fut une pionnière de la Révolution et de la présence médiatique et politique des femmes en France. C'est la raison pour laquelle je te parle d'elle. Mais elle était loin, très très loin d'être une féministe. Paradoxalement, cette femme si engagée dans la sphère politique considérait que les femmes ne devaient pas y avoir accès. Je ne crois pas que les femmes ne puissent jamais avoir aucune part active au gouvernement, dit-elle. Et je crois que le plus grand bien que puisse faire la Constitution aux mœurs publiques est de les en écarter pour jamais. L'histoire est pleine de mystères et les humains pleins de contradictions. Sûrement, Louise avait-elle peur de perdre sa crédibilité dans les cercles masculins auxquels elle appartenait. Peut-être qu'elle craignait qu'une autre femme, plus conservatrice, la remplace. Ou peut-être, tout simplement, qu'elle avait si bien intégré la misogynie des milieux républicains qu'elle en était elle-même venue à y croire, dénigrant par la même occasion tout ce qu'elle avait accompli. Cette contradiction, elle est difficile à résoudre, tant la vie de Louise Félicité nous en apprend sur l'action révolutionnaire des femmes de l'Ancien Régime. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je te laisse, chère auditrice, avec ces questions ouvertes, et je te dis à la semaine prochaine.